Dans une série, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, je vais y arriver, hein, Thessaloniciens. Peut-être que vous étiez déjà là la semaine dernière, je ne sais pas si on a beaucoup qui étaient là la semaine dernière. On était dans cette série où Trevor a prêché dans cette série, en chapitre 2. Et cette fois-ci, nous sommes dans le chapitre 3. Nous allons donc étudier les versets 1 à 5 dans la deuxième lettre de Thessaloniciens au chapitre 3. C'est page 779 dans les Bibles blanches. Je vais lire le passage. Maintenant donc, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée comme elle est chez vous, et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet, car vous faites et vous ferez ce que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du vote de confiance. En fait, le vote de confiance, ça se passe à l'Assemblée nationale. C'est le Premier ministre, lorsqu'il a été nommé, eh bien, il vient faire un discours devant l'Assemblée nationale où il présente son programme. Et puis, suite à cela, il y a un vote de confiance où chaque député vote pour dire s'il fait confiance ou non au Premier ministre pour mener à bien son programme. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est nous faisons-nous confiance à Dieu? Dans quelle mesure faisons-nous confiance à Dieu? Et si on va interroger les Français dans la rue, la réponse serait certainement négative, en fait que non, ils ne font pas confiance à Dieu. Et l'argument principal qui serait certainement avancé, c'est regarder tout le mal qu'a fait l'Église au fil des siècles. La France a été notamment marquée par la monarchie dans son histoire et par une période où les élites de nobles et de religieux s'accaparaient le pouvoir et la richesse du pays au détriment de tout le reste de la population. Et le peuple français à l'époque vivait dans l'oppression et n'a jamais vraiment pardonné aux religieux. Il est toujours soupçonné de vouloir rétablir une sorte d'oppression. Et puis, dans l'actualité, vous avez certainement entendu parler de ce nouveau scandale qui a éclaté en Pennsylvanie, aux États-Unis, où 300 prêtres de cet État sont soupçonnés d'avoir perpétré des actes de pédophilie. Et là, au fil des années, en fait, pendant des dizaines d'années, et la hiérarchie aurait dissimulé ces actes. Donc quand on voit cela, quand on voit ces scandales, ces injustices, comment dans ces conditions faire confiance à Dieu quand ses représentants se conduisent aussi mal? Eh bien, qu'est-ce que répondrait Paul à cela? Eh bien, la réponse en tout cas dans ce passage, c'est que ce n'est pas dans l'homme qui place sa confiance, mais c'est en Dieu. Et sa manière de voter sa confiance à Dieu, eh bien, c'est la prière. Il manifeste sa confiance par la prière. Donc on va voir ce matin comment Paul fait confiance en Dieu. Ensuite, on va voir pourquoi Paul fait confiance à Dieu. Et puis ensuite, on va voir comment être nous-mêmes dignes de confiance. D'abord, on le voit, hein. Comment Paul fait confiance à Dieu? Eh bien, c'est en priant. En fait, il demande à l'église de Thessalonique de prier pour lui. Puis le grand apôtre, Paul, eh bien, il a l'humilité de demander à l'église de Thessalonique de prier pour lui. Il y a donc là deux sujets de prière. On pourrait se demander quel est le point commun entre les deux sujets de prière. Hein. Il prie pour que la parole de Dieu se propage. Il prie pour que nous soyons délivrés des hommes méchants. Quel peut être le point commun? Le point commun, c'est la parole. Hein. On pourrait comparer ça à un fleuve qui s'écoule. Le fleuve, il prie que la parole s'écoule et se propage dans la vallée et sans obstacle. sans qu'il y ait de barrage, sans qu'il y ait des hommes méchants qui empêchent cette parole de se propager. Paul prie donc pour que la parole se propage. Et Trevor a évoqué la semaine dernière le rôle de la parole dans les réveils, hein, dans les différents réveils au fil de l'histoire. L'importance aussi de rester ancré en elle, de tenir ferme en elle. On a vu l'importance de la parole au fil des siècles, donc notamment lors de la réforme protestante du XVIe siècle, qui était un retour à la parole. Le slogan un peu de cette période, c'est « Post tenebras lux », après les ténèbres, la lumière, parce que justement on a redécouvert la parole, on a redécouvert la lumière, la parole au milieu des ténèbres. Et quand Paul parle ici de la parole, il fait mention de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, par qui nous sommes sauvés de nos péchés et de la colère de Dieu, parce que Jésus a payé à notre place sur la croix. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité. Et par sa résurrection, nous avons nous-mêmes l'assurance de la résurrection des morts et de la paix éternelle avec lui, en sa présence. Et c'est l'assurance dans cette parole qui nous sauve. Et cette parole doit donc être enseignée fidèlement. Et elle va de pair avec l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui agit dans les cœurs par cette parole. L'Esprit-Saint agit. Et on voit ça même dans la lettre aux Thessaloniciens. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, voilà ce qu'on lit. Dans le premier chapitre, au verset 4. « Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu qui vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint et avec une pleine conviction. » Donc on voit que la parole et l'Esprit travaillent ensemble donc pour que cette parole atteigne les cœurs, transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et effectivement, si l'Esprit-Saint n'agissait pas, eh bien nous resterions ces cœurs de pierre, nous ne nous ouvrions pas à l'évangile. Et Dieu nous associe à son œuvre par la prière. Nous avons besoin de prier pour que cette parole soit prêchée avec fidélité et agisse dans les cœurs, réveille les cœurs. Nous avons besoin de prier pour que les yeux des aveugles s'ouvrent à la lumière, que dans les ténèbres, les yeux s'ouvrent et que par son Esprit Saint, Dieu ouvre les yeux des aveugles. Nous avons vu la semaine dernière que la parole était au centre des réveils, au fil de l'histoire. Nous pourrions également parler de la prière qui est au centre de ces réveils. Nous pourrions parler, par exemple, du réveil dans Jura Suisse. Donc, ça s'est passé au début du 20e, donc dans le Jura Suisse. En fait, c'était des femmes qui se réunissaient toutes les semaines, fidèlement, pour prier dans un réveil dans Jura. Et puis, ce réveil s'est produit. Donc, il y a eu de nombreuses conversions dans la vallée du Jura. Et aujourd'hui encore, on peut voir de nombreuses églises dans la vallée du Jura. On pourrait parler aussi d'une église qui est chère à Trevor Harris. Une église qui se trouve dans un quartier de Londres qui s'appelle Sainte-Hélène. C'est la City, c'est au milieu des tours. Vous avez tout autour les tours de la City. C'est un peu la défense de Londres. Au milieu, il y a une église. Vieille église qui a des siècles et des siècles, ça va dater du 15e, peut-être même avant. Cette église, elle était vide. Il n'y avait plus personne devant, parce que de toute façon, le quartier était déserté. Vous imaginez, la défense ce dimanche, s'il n'y avait pas le centre commercial, ce serait vide, ce serait déserté. Et il y a des hommes d'affaires qui se réunissaient toutes les semaines pour prier pour qu'il y ait un témoignage chrétien dans ce quartier de la City. Dieu a agi. Cette église qui était vide est maintenant rayonnante, avec plein d'activités, de nombreuses personnes qui viennent et qui viennent découvrir l'évangile dans cette église. Cette église a également fait de nombreux essaimages, c'est-à-dire qu'elle a créé de nouvelles églises ailleurs dans Londres. Et tout cela part de la prière, tout cela part de la prière d'un groupe d'hommes d'affaires qui se réunissaient pour que Dieu agisse dans ce quartier. Nous avons donc besoin de prier pour que Dieu agisse. On pourrait peut-être être découragé par le fait que peu de personnes soient ouvertes à l'évangile, à la graine colombe et puis autour. Et nous avons besoin de prier hein, pour que Dieu agisse dans les cœurs. Nous avons besoin de prier, d'avoir une discipline et de prier régulièrement chacun pour que Dieu agisse dans ce quartier, pour que Dieu agisse dans les cœurs. Et aussi pour que la parole, on voit que la parole se propage. Il prie pour que la parole se propage, mais aussi qu'elle soit honorée. C'est-à-dire que nous tenions ferme, nous, dans la foi, que nous restions fidèles à la parole. Paul prie ensuite pour que nous soyons délivrés des hommes méchants. Donc on lit que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qui sont ces hommes méchants? Alors il y a deux hypothèses, parce que Paul ne précise pas exactement dans le texte de qui il s'agit. Il y a deux hypothèses, ça peut être des gens intérieurs à l'Église, ou des gens extérieurs à l'Église. Et puis on voit qu'avec Paul, on a eu les deux cas. À l'intérieur de l'Église, par exemple à Corinthe, où il a été confronté à ce qu'il appelle des super-apôtres. Super-apôtres, c'est-à-dire des hommes très éloquents, qui cherchaient à attirer l'approbation de l'Église, mais qui en fait ne prêchaient pas l'Évangile, ils prêchaient un autre Évangile. Ils cherchaient à tromper l'Église dans leur propre intérêt. Et puis on voit aussi que Paul a été confronté à la méchanceté à l'extérieur de l'Église. Il faut se rappeler que Paul a été bien souvent victime de faux témoignages, de gens qui disaient des choses de lui qui n'étaient pas vraies, donc pour l'empêcher justement d'enseigner la parole, pour l'empêcher de continuer à prêcher l'Évangile et à évangéliser dans les villes où il passait. Il est donc tombé sur des gens bien méchants et bien pervers, qui étaient prêts à utiliser tous les moyens donc pour l'empêcher de continuer son ministère d'annonce de l'Évangile. Et dans ce contexte, il demande donc la prière pour être délivré de ces gens, car ils sont un obstacle à la propagation de la parole, qui fasse donc là allusion à des gens à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur. Paul nous rappelle là aussi la nécessité du combat de la prière. Le combat chrétien n'est pas dans la confrontation physique. Le combat chrétien n'est pas dans la maîtrise d'un art martial. Non, le combat chrétien est dans la prière. Le combat chrétien est spirituel. On voit ça également dans le verset 3. Hein. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Alors là, on lit dans le passage « vous protégera du mal ». En fait, une meilleure traduction, ce serait plus personnel en fait. « Il vous affermira et vous protégera du malin ». Et Paul nous rappelle là encore que nous sommes dans un combat spirituel, ultimement contre le malin, contre le prince des ténèbres. Et quand on lit la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, voilà ce que nous lisons, à partir du verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » L'Église est donc attaquée de bien des façons, et bien des églises sont persécutées. Et on pourrait par exemple parler de l'Asie centrale, où des églises peuvent être infiltrées par des faux chrétiens qui viennent là pour les dénoncer ensuite au gouvernement, vu que c'est illégal de se réunir, donc pour de se réunir en tant qu'église, donc pour rendre gloire à Dieu dans ces pays. Par exemple, dans une église de maison, des hommes ont interrompu une réunion de prière. Ils sont donc entrés dans la pièce et ils demandent à tous ceux qui étaient là de se lever. Et donc, ils ont dit bien que ceux qui sont chrétiens se mettent là contre le mur. Et donc, ceux qui étaient là étaient terrorisés. Certains se sont enfuis. D'autres sont restés, se sont mis debout et se sont mis contre le mur en se demandant ce qui allait les attendre. Et c'est là, en fait, que les hommes ont dit « Ne vous inquiétez pas, nous aussi, on est chrétiens. On voulait juste vérifier que vous l'étiez aussi. » Donc, on voit hein, dans ces pays-là la suspicion, la difficulté à faire confiance, justement, parce qu'il y a des hommes méchants et pervers qui infiltrent l'Église pour faire du mal. Et la protection de l'Église, eh bien, c'est la prière. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier pour la protection des pasteurs, des anciens, pour la protection des membres de l'Église par rapport aux attaques du malin, pour la protection envers nous-mêmes aussi, envers notre propre mal qui est en nous, comme nous le rappelle la prière du Notre Père, hein, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le combat est spirituel. Paul ne croit donc pas dans la bonté intrinsèque de l'homme. Par contre, il est totalement confiant en Dieu et il l'exprime par la prière. Il prie pour que Dieu agisse et que nous puissions, nous aussi, de même, à genoux, prier pour que Dieu agisse, prier pour que Dieu nous préserve des attaques du mal, des attaques contre l'Église. Et maintenant, on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu fait-il confiance, pourquoi Paul, fait-il confiance à Dieu ? Pourquoi fait-il confiance à Dieu ? Eh bien, c'est ce qu'on voit dans les versets 3 et 4. Verset 3, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Paul compte sur la fidélité de Dieu. Alors, est-ce qu'on a confiance en l'autre dans notre pays ? Selon un sondage du journal Le Parisien, deux tiers des Français ont du mal à accorder leur confiance à l'autre. Deux tiers des Français ont du mal à accorder leur confiance à l'autre ou n'accordent pas leur confiance aux autres. Quelque part, on pourrait peut-être les comprendre. Après, j'ai lu les commentaires après cet article. Et voilà ce que j'ai vu. Il y a quelqu'un qui disait « Il y a confiance quand il y a la certitude de l'engagement moral de l'autre. » Il y a confiance quand il y a certitude de l'engagement moral de l'autre. Sous-entendu, c'est parce qu'on ne fait plus confiance aujourd'hui dans, on ne fait plus confiance aujourd'hui dans l'autre parce qu'il n'y a plus d'engagement moral. Donc, comme il n'y a plus d'engagement moral, on ne peut plus faire confiance aux autres. Un autre dit, on vit dans une société de consommation et du paraître qui jette rapidement ce qui la gêne ou n'intéresse plus. Cette personne finalement dit que cette société de consommation se projette sur nos relations. On peut par exemple parler de ces abonnements téléphoniques sans engagement. Alors moi-même, j'ai un abonnement téléphonique sans engagement, je ne pense pas qu'il y a de mal à cela. Mais le problème, c'est que quand on projette ça sur les relations avec les autres, des relations sans engagement, comment peut-on faire confiance quand il n'y a plus d'engagement dans la société ? On jette rapidement la personne qui gêne, qui n'intéresse plus. Comment faire confiance dans ces conditions-là ? Bien, Paul, lui, a sa confiance en Dieu, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et s'il a confiance, et il montre dans ses versets sa confiance dans les chrétiens de Thessalonique, s'il a la confiance, s'il a confiance dans les chrétiens de Thessalonique, eh bien, c'est parce que Dieu est fidèle, parce qu'il est persuadé que Dieu agit en eux. Regardez bien la tournure de phrase de Paul. Paul ne dit pas directement qu'il a confiance dans les chrétiens de Thessalonique, mais qu'il a confiance en Dieu qui agit en eux. En fait, ce serait comme si vous regardiez un potier en train de faire son vase. Là, vous avez vu que le potier a commencé à faire son vase et vous avez toute la confiance que ce qu'a commencé le potier, ce qu'il est en train, justement, devant vos yeux de faire, eh bien, il va le terminer. Quelque part, vous n'avez pas confiance dans le pot en lui-même pour se terminer tout seul. Si vous laissez le pot tout seul tourner sans le potier, il va pas pouvoir se terminer tout seul. Et par contre, lui, le potier, eh bien, lui, il va finir son travail. Et bien, de même, Paul a confiance dans le fait que Dieu va finir l'œuvre qu'il a commencée dans les Thessaloniciens, parce qu'il a vu cette œuvre, il a vu Dieu agir dans les Thessaloniciens. Il a confiance dans la fidélité de Dieu pour finir le travail. Dieu va continuer à les faire grandir. Et Paul dit exactement la même chose dans la lettre aux Philippiens. On lit dans le premier chapitre de Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » La confiance de Paul n'est donc pas intrinsèquement en l'homme, mais en Dieu. Et si Paul peut placer sa confiance dans la communauté de Thessalonique, c'est parce qu'il voit Dieu agir en eux. Alors attention, les Thessaloniciens ne sont pas parfaits, et c'est pour ça que Paul écrit cette lettre. On voit dans les versets suivants qu'il les corrige, il les reprend et les corrige. Mais Paul les voit grandir, et il se réjouit. Il sait que Dieu est fidèle, il sait que l'œuvre qu'il a commencée en eux, il va la mener à son terme. Et là aussi, on pourrait donner comme application la prière. Est-ce que par la prière, nous montrons que nous sommes conscients de notre dépendance de Dieu, hein ? Nous sommes conscients que nous sommes des pots que façonne le potier. Nous exprimons notre confiance en Dieu pour qu'il agisse. Prions pour qu'il continue son œuvre en nous, qu'il continue à nous faire grandir par sa parole. Confessons-lui notre péché, confessons-lui notre incapacité par nous-mêmes à nous transformer et la nécessité de venir à lui dans la repentance continuellement pour lui demander de nous faire grandir, pour lui demander de nous rendre de plus en plus conformes à son image. Et c'est ce que nous allons voir dans le verset 5. Verset 5, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. La question qu'on peut poser, c'est donc comment être nous-mêmes dignes de confiance. Nous avons parlé de la méfiance des Français. Comment changer cela? Comment inspirer nous-mêmes confiance? Comment être différent? Eh bien, nous voyons ici, en regardant à Dieu lui-même, en regardant à l'amour que Dieu nous a manifesté, en regardant à la patience que Christ a eue envers nous. Parce que bibliquement, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à changer d'attitude. C'est à son tour cela qui est un témoignage puissant, quand nous manifestons nous-mêmes la bonté et la patience que nous voyons en Dieu. Alors en vacances cet été, j'ai rencontré un missionnaire. En fait, il était de retour en Bolivie. Il était missionnaire en Bolivie, il était retourné dans son pays. Et juste avant de partir en Bolivie, il y a eu une fête donc, pour son départ. Et ses amis lui ont dit à quel point ils avaient été impressionnés par sa famille, parce que sa famille respirait l'amour. Et certainement parce que lui voyait l'amour et la patience qu'il y a en Christ et reproduisait lui-même cela dans sa famille. Et cela était un témoignage puissant de l'amour et de la patience de Dieu lui-même. Et voilà ce que nous lisons dans la première lettre de Jean au chapitre 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Cet amour consiste, l'amour de Dieu consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu, donc manifesté en Jésus-Christ, et également la patience, c'est ce qu'on voit. Hein. Paul nous parle de la patience du Christ. Et comment est-ce qu'on a vu la patience du Christ? Alors ici, la patience peut être traduite plus précisément par l'endurance dans la souffrance. Hein, l'endurance dans la souffrance. Et on peut penser à l'église de Thessalonique, justement, qui est dans la persécution et qui doit endurer donc dans ses souffrances. Mais Christ lui-même a enduré dans les souffrances pour nous, alors que les hommes l'insultaient, le méprisaient, le moquaient. Lui, le roi tout-puissant, lui, le roi de l'univers, le traitait comme un moins que rien, le méprisait, le frappait. Eh bien, lui a eu la patience, donc l'endurance dans la souffrance que nous pouvons pas connaître. On ne pouvait pas connaître la souffrance qu'il a connue à ce point. Et ceci jusqu'à la croix, donc pour mourir sur la croix pour nos péchés. Nous qui étions pas aimables envers lui, lui a prouvé son amour ultime à la croix, en mourant pour nos péchés. Nous avons donc besoin de regarder à Jésus pour devenir nous-mêmes des modèles d'amour et de patience. Je vois moi-même à quel point j'ai besoin d'apprendre la patience en famille. Ma femme aussi a besoin d'être patient envers moi, je peux vous le dire. Donc, on voit cet exemple hein, de la patience du Christ. Et dans une France en mal de confiance, en mal de personnes à qui faire confiance, que nous puissions être nous-mêmes des modèles de gens de confiance, des modèles de fidélité. Nous sommes intrinsèquement pécheurs, même dans l'Église. Il y a des scandales. Quelle que soit l'Église, quel que soit le groupement d'Église, quelle que soit la dénomination, on peut trouver des scandales. Mais avec humilité, reconnaissons que nous avons besoin que Dieu nous transforme, à son image, pour être des gens reconnus comme étant dignes de confiance autour de nous. Pour cela, nous avons encore besoin de la prière. Hein. Nous avons encore besoin de prier. Nous avons besoin de fléchir le genou devant Dieu, de nous humilier en le suppliant qu'il nous transforme, que nous soyons différents dans ce monde. On va prier. Là, nous voyons la méfiance qu'il y a autour de nous, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'Église, ce manque de confiance. Nous, Seigneur, nous voyons, nous pouvons pleinement faire confiance à Dieu, parce que Dieu est fidèle. Lui est fidèle, Seigneur. L'homme est marqué par péché, mais Dieu est parfait et saint. Il est fidèle. Il a montré sa fidélité, son amour, sa patience en Jésus-Christ. Nous te prions que nous puissions montrer notre confiance en toi par la prière, en montrant, Seigneur, en priant, Seigneur, que tu transformes les cœurs autour de nous, que tu agisses par ta parole et ton Saint-Esprit. Et nous te prions que nous puissions manger cette parole, lire cette parole pour être transformés par elle, pour regarder à Jésus, pour regarder, pour comprendre l'ampleur, la profondeur de ton amour, de ta patience envers nous, pour que nous-mêmes, nous puissions refléter cet amour et cette patience autour de nous. Père, que tu puisses nous transformer, que tu puisses nous travailler comme le potier avec son pot, pour que nous puissions nous-mêmes être des modèles d'amour et de patience autour de nous, pour que nous puissions nous-mêmes inspirer la confiance et que nous puissions inspirer la confiance non pas par notre propre mérite, mais parce que tu nous auras transformés, Seigneur, à ton image. Nous prions cela en ton nom, Seigneur. Amen.